Nous accueillons Échille Caracas, dont je vais vous dire, présenter rapidement ce qu'elle est. Après des études dans les universités aussi bien de Turquie, à Istanbul notamment, et en France, à l'université de Nancy, elle est aujourd'hui, elle est professeure de droit international à l'université de Galatasaray, d'Istanbul, et depuis un an, elle est juge à la Cour européenne des droits de l'homme, et donc professeur et professeur de droit, voilà, à Strasbourg. Je lui laisse la parole pour 45 à 50 minutes, après quoi c'est vous qui pourrez lui poser des questions.
Voilà, merci beaucoup. Alors, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier pour cette invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être parmi des conférenciers de l'Université de tous les savoirs. Oui. Et de trouver aussi une possibilité de faire une petite contribution dans le cadre de la saison de la Turquie en France. Et bon, le sujet est vraiment vaste, la Turquie et les droits de l'homme, mais moi, en tant que juge aussi à la Cour européenne des droits de l'homme, je voudrais me concentrer plutôt sur la Turquie et la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc, la Turquie, tout d'abord, est membre du Conseil de l'Europe depuis 1949. Donc, c'est l'un des premiers membres du Conseil de l'Europe. Et donc, elle se situe dans l'espace juridique européen formé par des États partageant toujours les mêmes valeurs fondamentales, les mêmes principes juridiques. Évidemment, au sein, il existe des règles positives communes, souvent exigeantes, comme que je vais parler, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. La Turquie a ratifié la Convention européenne des droits de l'homme en 1954, qui est déjà l'un des premiers, mais ce qui est le plus important, elle n'a reconnu le recours de droit individuel qu'en 1987. Et elle a accepté la juridiction obligatoire de la Cour en 1990. Donc vous remarquez qu'il y a une grande différence de temps entre la ratification et l'acceptance de droit de recours. En plus, au moment de la reconnaissance, elle a déposé une déclaration représentant les caractéristiques d'une réserve, évidemment qui a déclaré ultérieurement invalide par la Commission européenne des droits de l'homme. Donc, c'était en 1987, et c'était la période du gouvernement Özal. Et le but était, après le coup d'État militaire de 12 septembre 80, de s'ouvrir vers l'Europe, en but d'obtenir toujours la candidature de l'Union européenne. À cette date, la Turquie a également ratifié la Convention contre la torture. Là aussi, elle était l'un des premiers pays à la ratifier. Alors, quelle était la motivation? Alors, la motivation venait du fait qu'à l'époque, on disait... Mais pour les conférences et dans le cadre des conférences de la saison de la Turquie, on toujours les mêmes choses, c'est toujours le même cas aujourd'hui, c'est qu'on disait le chemin de Bruxelles passe par Strasbourg. Et donc la Turquie, qui est déjà liée par la Convention, après la reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour, sous l'influence des droits européens des droits de l'homme, elle a dû s'engager son système juridique avec les normes européennes. Donc, elle a modifié la Constitution bien avant et avec beaucoup de modifications, mais le plus important, c'est en 2001 et en 2004. Et ainsi, elle a accepté et elle a fait 9 paquets de réformes pendant ces dernières années. Aujourd'hui, aucun juriste turc, praticien ou théoricien, ne peut ignorer l'influence grandissante de la Convention et la jurisprudence de la Cour sur le droit turc. Mais ce que je voulais m'exprimer plutôt sur ce point-là, qu'il apparaît des difficultés. Il existe des textes bien réformés, Mais face au texte réformé, l'interprétation restrictive des juridictions se poursuit dans le domaine des droits de l'homme. La Turquie fait l'objet auprès de la Cour de multiples recours qui aboutissent à de nombreuses condamnations. Je peux vous dire quelques chiffres là-dessus. Le nombre total d'arrêts constatant au moins une violation de la Convention est de 1676. C'est l'état des choses au début de cette année-là, c'est-à-dire le 1er janvier 2009 et jusqu'au 1er janvier, à la fin de septembre, on a donné à peu près plus de 300 arrêts qui constatant une violation d'un article de la Convention. Et en plus, à ce jour, c'est le chiffre d'aujourd'hui, 12 029, c'est le chiffre exact, 12 029 requêtes sont encore pendantes devant notre cour. Donc, à travers plusieurs exemples, nous pouvons constater que les violations sont d'une nature souvent grave. Elles concernent plutôt le droit à la vie, l'interdiction de la torture et des traitements inhumains, même l'habeas corpus, mais également que j'essaierai d'aborder le sujet dans le domaine de la liberté d'expression. Donc, ceci reflète bien la fragilité du respect de la Convention en Turquie. Donc, j'essaierai de faire un panorama des problèmes des droits de l'homme de la Turquie d'après, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des réformes, évidemment, effectuées toujours en vue d'harmonisation de son ordre juridique avec les normes européennes. Il est impossible d'aborder tous les cas, toutes les situations, donc j'ai essayé de choisir les plus pertinents. Et donc, pour le premier cas, je voulais insister sur le sujet qui représente les valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Ça veut dire d'abord droit à la vie et après interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. Alors, concernant d'abord droit à la vie. Le droit à la vie, évidemment, le respect est la condition une condition nécessaire à l'exercice de tous les droits. Donc, l'obligation de l'État à cet égard implique d'abord le devoir d'assurer le droit à la vie, mettant en place un cadre juridique et administratif propre à dissuader des atteintes contre la personne. Donc, il faut prévenir, réprimer et sanctionner les violations. La question des recours des policiers à la force meurtrière peut être justifiée dans certaines circonstances, mais toutefois, la Convention, l'article 2, ne donne pas la carte blanche. Donc, le non-encadrement par des règles et l'arbitraire de l'action des agents de l'État sont incompatibles avec un respect des droits de l'homme. Ça veut dire que les opérations de police doivent être suffisamment délimitées par le droit national et il faut un système de garantie adéquat et effectif contre l'arbitraire et l'abus de la force. Donc, il existe des cas où il peut arriver des recours à la force, ce qui peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Donc ici, le terme l'absolument nécessaire, qu'il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux, donc normalement utilisé pour déterminer si l'intervention de l'État est nécessaire dans une société ou non. Donc, et en plus, doit être strictement proportionné. Donc, la Cour de Strasbourg examine de façon extrêmement attentive le cas où on inflige la mort, notamment lorsqu'on fait un usage délibéré de la force meurtrière Et il prend en considération non seulement les actes des agents de l'État, mais l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment sur la question de la préparation et le contrôle des actes en question. Donc, ça veut dire l'État a non seulement une obligation négative, mais aussi une obligation positive. Ça veut dire protéger la vie, mais implique aussi une protection procédurale du droit, une obligation pour les autorités de mener une enquête efficace et indépendante sur tout recours à la force absolument nécessaire. Pourquoi ? Pour permettre de conduire à l'identification et à la punition des responsables. Donc, pour un exemple concernant la Turquie, c'était une première affaire que la Cour a décidée en 1998. C'est l'affaire Kaya contre la Turquie. Alors, Kaya, il est mort à la suite, et le gouvernement soutenait qu'il était survenu au cours d'un affrontement avec les forces de sécurité. Et les forces de sécurité se trouvaient en légitime défense. Alors, il y a eu en fait une enquête, aucune enquête plutôt officielle, parce que le procureur n'a fait aucune investigation sur les lieux. Le procureur, il avait admis, sans se poser des questions, qu'il a accepté tout de suite que le défunt était un terroriste, mort au cours d'un affrontement avec les forces de sécurité. Donc, il n'a interrogé aucun soldat et il n'a pris aucune mesure pour vérifier s'il restait dans le lieu des cartouches vides ou autres. Il n'a pas cherché d'autres preuves dans la zone, tout ça. Ou le corps n'a pas été transféré dans un lieu pour faire des analyses plus approfondies sur le cadavre. Et la Cour constate dans cette affaire que, évidemment, au moment au sud-est de la Turquie, il y a des incidences mortelles, ce sont des choses vraiment tragiques et courantes. Il y avait un manque de sécurité, mais ni la fréquence des violents conflits armés, ni le grand nombre des victimes n'a d'incidence sur l'obligation de l'article 2 de la Convention, c'est-à-dire droit à la vie. Il faut effectuer une enquête efficace et indépendante sur le décès survenu lors d'affrontements avec les forces de sécurité. Donc, les autorités n'ont pas pratiqué une enquête effective sur les circonstances. Il y avait d'autres exemples concernant le droit à la vie. Par exemple, où il n'a pas établi que la mort a été provoquée par un agent d'État, ou lorsqu'une personne est arrêtée et détenue par la police et ensuite disparue. Dans ce cas-là aussi, la Cour retient une présomption de causalité en l'absence de l'explication de la part des autorités à la disparition elle conclut que la victime est décédée à la suite de ce garde à vue. De même, si un individu est placé en garde à vue et décédé au cours de celle-ci, il faut aussi empêcher le suicide des détenus. Donc, il y a toujours une exigence de mener une enquête officielle adéquate et effective et le point commun de tous les arrêts de la Cour. Aussi, la force doit être strictement proportionnée. C'est à la fois pour les actes d'exécution et l'organisation de l'opération en question. Surtout quand il y a l'utilisation des armes à feu. Donc, il faut que les forces de sécurité, avant de se servir d'armes à feu, doivent être employées des moyens neutralisants, par exemple les gaz lacrymogènes, des balles plastiques ou des grenades paralysantes. Pourquoi ? En vue de limiter le recours aux moyens susceptibles de causer la mort. Donc, il faut que, avant d'utiliser des armes à feu, ces moyens-là, tous doivent faire un recours à ces moyens. Et bien évidemment, les forces de l'ordre prendront toutes les mesures qu'ils estiment raisonnables, nécessaires, pour éliminer tout risque pour leur propre vie et celle de tiers. Mais, comme je l'avais dit, que ces mesures doivent être strictement proportionnées au but poursuivi. Parce que, par exemple, comme démontre le cas que la Turquie a été condamnée par la Cour pour l'usage d'une mitrailleuse pour disperser les manifestants. Là, c'est un exemple qui démontre bien que l'utilisation de la force n'était pas du tout proportionnée au but poursuivi, c'est-à-dire disperser les manifestations. Si vous utilisez une mitrailleuse, ce n'est pas proportionnel du tout. Et j'avais dit que les tribunaux internes avaient des difficultés à suivre la jurisprudence de la Cour. Le droit à la vie, l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, n'a pas toujours sa place primordiale dans les décisions des tribunaux internes. Je vais vous donner un exemple très récent qui est donné par l'Assemblée générale criminelle de la Cour de cassation. C'est en 30 mars 2009, mais qui est déclaré la semaine dernière, qui approuve l'usage d'armes à feu sur les manifestants jetant des pierres aux forces de l'ordre, ce qui a causé la mort d'une personne qui n'était même pas parmi les manifestants. Donc, en plus, la motivation de cette décision réside dans la prise en compte des spécificités propres à la région, c'est-à-dire le sud-est de la Turquie, ayant provoqué agitation, crainte et affolement excusables chez les forces de l'ordre suite de leur psychologie au feu du moment, et la limite n'est pas été dépassée d'après la Cour cassation turque. Donc ici, j'ai essayé de présenter avant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et maintenant c'est la décision de la Cour de cassation. Vous pouvez très bien voir qu'il y a une grande différence avec la jurisprudence de la Cour qui surgit clairement sur ce point. Dans toutes les affaires de recours aux armes à feu, il y avait agression armée de l'autre partie, ou si la couronne ne trouve pas la violation. Alors, évidemment, le but des forces de l'ordre était tout faire pour éliminer tout risque pour leur propre vie et leur vie, celle des tiers. Mais c'est une condition de proportionnalité, fait défaut dans la décision de la Cour de cassation. En plus, il a utilisé un critère de région qui est tout à fait étranger aussi à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pour donner encore un chiffre avant de passer à le point suivant, jusqu'aujourd'hui, la Cour a constaté une violation de l'article 2 de droit à la vie dans 186 arrêts substantiels ou procédural, ça veut dire une existence d'une enquête efficace pour la période de 1959 à 2009. Et pour comparer, c'est la Turquie qui a plus d'arrêts avec le chiffre 186, et juste après, c'est la Russie qui vient après la Turquie, et 129, et juste ces deux pays avec cette norme très élevée. Après, c'est la Bulgarie, uniquement 15 affaires, 14 pour le Royaume-Uni, 7 pour l'Ukraine, 6 pour la Grèce, 5 pour la France, et 3 pour la Pologne et Pays-Bas, 2 pour la Lituanie, 1 pour la Luxembourg, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse. Et les autres n'ont pas. Et donc ici aussi, vous considérez la grande différence entre les chiffres des pays membres du Conseil de l'Europe. Donc, à ce point, je voudrais passer l'autre point crucial concernant les droits de l'homme en Turquie. C'est l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants. C'est l'article 3 de la Convention, aussi l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, une interdiction absolue. Ça veut dire l'intégrité physique de la personne bénéficie évidemment d'une garantie absolue, même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. La Cour a déjà considéré, c'est une affaire contre la France, Salmouni, que c'est tout usage de la force physique sur une personne en situation d'infériorité, c'est-à-dire privée de liberté, cette personne-là, qui est prohibée et tombe sous le coup de l'interdiction de la torture. Donc, toujours, l'obligation de l'État est d'abord négative, de ne pas faire. Donc, il ne va pas faire le torture ni des traitements inhumains et regrettables. Mais également, c'est comme dans le cas de l'article 2, droit à la vie, il y a une obligation positive de protéger l'intégrité physique des personnes privées de liberté et de lui fournir en plus des soins médicaux. Par exemple, dans une affaire concernant la Turquie qui date assez ancienne de 2000, la qualification de torture a été établie suite à l'absence des soins médicaux pendant 36 heures. Donc, le nombre pour cela aussi, la qualification de torture qui n'est pas très commun parmi les pays membres du Conseil de l'Europe, est de 22 affaires pour la Turquie. Donc, pour toujours la comparaison, 22 affaires, ici c'est toujours la Turquie au premier rang, 15 pour la Russie, juste après la Turquie, et après, on voit toujours une différence, 5 pour le Moldova, 1 pour l'Ukraine, Roumanie, Pays-Bas, Autriche, Azerbaïdjan et la France. Et les autres, non pas. Donc, la première qualification de torture dans la jurisprudence de la Cour, c'est l'affaire Aksoy, en 96, à propos du traitement de la pendaison palestinienne. C'est une façon de torture. De torturer, infligé par la police évidemment, durant la garde à vue, et aussi de Falaka, c'est aussi une façon de torture, et aussi à propos du viol de la requérante par des policiers durant sa garde à vue. Donc ce sont les exemples de torture que la Cour a, les exemples de traitement inhumain et mauvais traitement, mais la Cour les qualifiait comme une torture. Donc, quelle est l'obligation de l'État? C'est toujours faire une enquête officielle, approfondie, effective, en vue de l'identification des responsables. Lorsqu'un individu formule une allégation défendable, grave, subie alors qu'il se trouve dans les mains des agents d'État, outre le versement d'une indemnité, alors il faut une enquête efficace et approfondie. Les autorités doivent agir dès qu'une plainte officielle est déposée. Même lorsqu'une plainte proprement dite n'est pas formulée, il y a lieu d'ouvrir une enquête s'il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu'on trouve en présence en cas de torture ou de mauvais traitements. Les autorités doivent voir la situation particulièrement vulnérable des victimes de torture, que si un individu a subi des sévices sérieux, sa capacité ou sa volonté de plaindre se trouve souvent affaiblie. Donc l'enquête doit être effective, en pratique comme en droit. Cette enquête doit mener à l'identification et punition des responsables. Alors, s'il n'est pas ainsi, ça ne va pas la peine de l'interdire de torture ou de traitement inhumain parce qu'il serait inefficace en pratique. En plus, ces gens-là ne jouissent pas d'une quasi-impunité. C'est très important. Il faut que tous les responsables soient punis par le système pénal. C'est vrai que les allégations de torture subies pendant une garde à vue sont extrêmement difficiles à étayer pour la victime parce qu'elle est isolée du monde extérieur, privée de la possibilité de voir des médecins, des avocats, des parents ou des amis susceptibles de lui fournir des soutiens. Mais ça veut dire qu'une déclaration détaillée de la victime, les dépositions des témoins, les expertises, les certificats médicaux, un compte-rendu complet et précis de toutes les blessures, une analyse objective, s'il y a évidemment des blessures, ça va aider les autorités à trouver les responsables. Donc, l'enquête aussi doit être indépendante. Donc, il faut, tout lien hiérarchique doit être, l'absence de tout lien hiérarchique, mais une indépendance pratique aussi s'oppose ici. L'impunité, s'il y a une impunité continue des agents de force, ça, dans la jurisprudence récente, que ici, il y a aussi la violation de l'article 3, c'est la jurisprudence récente de la Cour. Aussi, dans les cas où la disparition d'une personne sous réserve de conditions particulières, proximité de la parenté, silence des autorités, il s'agit de traitements inhumains et dégradants, c'est beaucoup d'affaires turques. Et aussi, il y a dans les années 95, l'incendie volontaire des maisons dans les villages du sud-est par les forces de l'ordre turc. Il s'agit là encore d'un traitement inhumain trouvé par le cours. Aujourd'hui, il y a eu des réformes dans les années 2004-2005. Il existe aujourd'hui un cadre législatif complet et le gouvernement soutient toujours la lutte contre la torture. Il continue avec une politique de tolérance zéro. Donc, on espère qu'il y aura une diminution des affaires devant la Cour européenne des droits de l'homme concernant le cas des tortures. Alors, d'après ces deux cas qui vraiment concernent d'être l'être humain, la condition de l'être humain, nous allons poser un autre cas que je voulais aborder. C'est aussi une des questions, une des fondements essentiels de la société démocratique, c'est les cas concernant la liberté d'expression. Nous savons que d'après la jurisprudence de la Cour, la liberté d'expression, elle vaut non seulement pour les informations et idées accueillies avec faveur, ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi celles qui heurtent, qui choquent, et qui inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Donc, évidemment, c'est une liberté très étendue, mais il existe certaines limites, mais les États disposent d'une certaine marge d'appréciation, évidemment sous contrôle européen. Concernant la Turquie, la Cour a conclu 170 affaires à la violation de la liberté d'expression, surtout en raison de la condamnation par la Cour de sûreté de l'État. Pourquoi ? À la suite de la publication des articles, de livres ou de déclarations ou concernant la saisie de publications. Surtout, pourquoi la violation ? Il y a une absence de proportionnalité dans l'interprétation et l'application des dispositions législatives en ce qui concerne les limites de la critique portant sur les thèmes d'intérêt général en l'absence aussi de toute incitation à la violence. Qu'est-ce qu'il s'agissait ? Il s'agissait surtout des débats sur la question kurde qui demeure une question d'actualité sociopolitique et aussi de la question arménienne, qui constitue l'un des débats plus importants, toujours au cours au niveau national et international. Et souvent, l'analyse des deux Corans des requérants à la Cour n'est pas dans la ligne de celle des autorités nationales sur le sujet. Et donc, l'opinion ou le discours contient des formulations qui peuvent heurter, choquer ou même inquiéter certains pour qui la Cour a affirmé que, évidemment, de telles idées bénéficient aussi de la liberté d'expression. La Cour a toujours mis l'accent sur le droit du public de s'informer d'une autre manière sur la situation dans le sud-est de la Turquie et de mener un débat démocratique sur la politique et historique du pays. C'est l'affaire Sürek, numéro 4 de Grande Chambre. Évidemment, j'ai parlé que la Turquie a effectué des réformes importantes dans le domaine de la liberté d'expression. Je voulais aussi mentionner ces réformes-là. Le cadre général des réformes, il y avait un changement significatif, par exemple, a été réalisé par l'abrogation de la disposition constitutionnelle interdisant l'emploi des langues prohibées par les lois. Cela constitue une garantie de la liberté d'expression en permettant l'emploi des langues autres que le turc. La liberté de presse aussi a bénéficié d'une mesure identique et il y avait un article dans la Constitution. Les publications ne peuvent pas être faites dans d'autres langues que la turque. Cela aussi a changé. Aussi, la loi antiterrorisme, l'article 8, relatif à la propagande contre l'unité indivisible de l'État. Maintenant, l'article 7 aussi a changé. C'est uniquement le seul appel à la violence peut constituer une limite à la liberté d'expression. Ceci est conforme à la jurisprudence de la Cour. Il y a modification du code pénal. D'abord, l'ancien code a changé. Après, depuis 2005, il y a un autre code pénal. Mais l'expression non violente des opinions peut toujours faire l'objet de poursuites par le parquet en utilisant certaines dispositions toujours maintenues, même dans le nouveau code pénal. Par exemple, l'article 216 pose le critère du danger évident et proche pour la condamnation des personnes qui incitent à la hostilité à la haine. Ici, je pense que le terme « danger proche » a été délibérément utilisé, celui de danger immédiat ou présent, ce qui était le critère utilisé toujours par la Cour suprême fédérale américaine. Pourquoi ? Parce qu'il confirme une marge d'appréciation plus large au procureur. L'article 301, c'est beaucoup discuté, c'est toujours le nouveau code pénal, et qui sanctionne toute insulte proférée à l'encontre maintenant à la nation turque. Auparavant, il figurait la notion de turquicité. Donc, la notion de turquicité, il est très difficile à l'interpréter, à utiliser et l'appliquer. Alors, même dans sa version modifiée, nation turque, ça peut être continué d'être une source ambiguë parce que les juridictions internes, souvent, ils interprètent les articles des lois loin de la jurisprudence de notre cour de Strasbourg. Je vous donne un autre exemple récent. C'est toujours par la Cour de cassation. La décision de l'Assemblée civile de la Cour de cassation illustre très bien l'usage de l'article 301 par les juridictions d'une manière restrictive. Cette décision donne la possibilité aux personnes qui se sentent insultées par la déclaration de Orhan Pamuk de prétendre à un dommage moral. C'est tout à fait nouveau, c'est paru le 8 octobre 2009. Donc, il y a des exemples qui montrent que ces articles continuent à être utilisés pour poursuivre les journalistes, éditeurs ou académiques pour l'expression des opinions non violente. Cette situation aussi explique, malgré les réformes constitutionnelles et législatives, le grand nombre de requêtes pendantes devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ils avaient la possibilité, parce que l'autorité de droit international des droits de l'homme est renforcée dans l'ordre juridique interne, toujours par la modification de 2004 de la Constitution, c'est l'article 90 de la Constitution. Celui-ci prévoit la suprématie de la norme internationale sur la règle interne en cas de conflit. C'est très important, cette règle-là, pour l'ouverture de l'ordre juridique vers le droit européen des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les arrêts de la Cour européenne. Donc, mais qu'est-ce qu'il reste? Et il reste à l'application de cette provision par les juridictions turques. Pour donner des exemples de la question de liberté d'expression, faire une référence aux modifications dans le domaine de l'audiovisuel, enfin, les émissions de radio et de télévision sont désormais autorisées dans les langues utilisées traditionnellement par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne. D'abord, le TRT, la chaîne officielle, a commencé à diffuser des émissions en bosniaque, en arabe, et en circassien et deux dialectes kurdes. Mais finalement, en 2009, une nouvelle chaîne maintenant, toujours de chaîne officielle, a débuté des émissions uniquement en langue kurde. Donc, aussi avec une nouvelle réglementation, les chaînes nationales privées aussi peuvent également diffuser des émissions dans des langues autres que le turc, mais il y a des restrictions de durée. Alors, aussi, la question de l'enseignement dans des différentes langues traditionnellement utilisées par les citoyens turcs dans la vie quotidienne, il y avait une réglementation. Il y avait des cours privés pour enseigner le kurde, et les élèves de ces cours doivent être âgés de plus de 15 ans, dans les villes de l'Est et du Sud-Est de la Turquie. Mais aujourd'hui, la plupart de ces cours ont été fermés suite au manque d'étudiants. La Cour a déjà eu l'occasion de conclure à la violation de la liberté d'expression pour l'interdiction d'interpréter une pièce de théâtre en kurde dans les salles d'une municipalité. Malgré les divers amendements en la matière, les obstacles continuent à l'expression en kurde en pratique. Il y a aussi la loi antiterrorisme, l'article 6. Ici, la publication de toute périodique contenant la propagande d'une organisation terroriste ou l'incitation à commettre une infraction dans le cadre des activités d'une organisation terroriste ou faisant apologie d'un crime. Ici, cette périodique-là peut être temporairement suspendue par une décision judiciaire pour une période de 15 à 30 jours. Évidemment, cette suspension aura un effet préventif concernant la publication des articles sur des sujets identiques. À mon avis, il peut y avoir d'autres méthodes moins restrictives, restant dans les limites toujours du critère de la nécessaire dans une société démocratique. Donc, ces exemples démontrent la position de la Turquie, mais face à la jurisprudence de la Cour, il y a grand nombre d'arrêts constatant la violation de la liberté d'expression. Je vous ai dit 170, même plus parce que c'est jusqu'au janvier 2009. Cela prouve le chemin toujours à parcourir dans les décisions de juridiction interne en vue de se conformer aux normes européennes. C'est toujours pour une comparaison. Je donne aussi les autres chiffres à titre de comparaison parce que 170 arrêts de violation pour la liberté d'expression concernant la Turquie. Après la Turquie, vient juste l'Autriche, mais avec 32 arrêts de violation, la France avec 16, et après la Moldova avec 13, Fédération de Russie 11, et la Pologne avec 10. Et les autres, il n'y a pas de chiffres à annoncer.
ça va? C'est bon? Un quart d'heure. Alors, le troisième cas que j'ai choisi, parmi il y en a plusieurs, mais c'est une question de la démocratie à la Turquie. C'est le cas des dissolutions des partis politiques. Ça aussi, c'est un événement dans la vie politique de la Turquie. Parce que la Cour constitutionnelle a le pouvoir de dissoudre un parti. Mais ces décisions-là, ils sont soumis à un contrôle européen. Ici aussi, les États ne disposent qu'une certaine marge d'appréciation. Jusqu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la Cour constitutionnelle turque a décidé la dissolution de 27 partis politiques avec la liquidation et le transfert de leurs biens au trésor public. Tandis que la Cour européenne des droits de l'homme s'est prononcée sur les 9 affaires qui lui sont soumises. C'est le Parti communiste unifié de Turquie, Parti socialiste, Parti Özdemir, Parti de la liberté et de la démocratie, un autre des partis pour la démocratie, Parti du travail du peuple, Refah Partisi, Parti de la prospérité, Parti de la démocratie et de l'évolution, Emek Partisi, démocratique, Kitle Partisi, ça fait au total 9 arrêts de la Cour européenne. Donc, les motifs des décisions de la Cour constitutionnelle sont l'intégrité territoriale, l'indivisibilité de l'État, l'unité nationale, ça veut dire qu'il n'existe pas de minorité, ni de minorité nationale, hormis celles qui sont mentionnées dans le traité de Lausanne, et être un centre d'activité contraire au principe de laïcité. C'est comme le quatrième cas, je vais étudier, aborder le sujet du principe de laïcité. La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt du Parti communiste, considère que même si le programme du parti parle du peuple, de la nation, des citoyens kurdes, il ne les qualifie pas pour autant de minorité et ne revendique pas le bénéfice d'un traitement ou des droits particuliers, voire celui de se séparer du reste de la population de la Turquie. Je cite l'arrêt. Il est vrai que les caractéristiques de la démocratie et la résolution des problèmes par le dialogue et sans recours à la violence. Mais la Cour admet que le programme d'un parti politique peut cocher des objectifs et des intentions différentes de ce qu'ils affichent publiquement. Donc, il faut comparer le contenu du programme avec les actes et les prises de position de ses responsables. Pour le Parti socialiste, il y avait un projet fédéral pour l'établissement d'un système fédéral, ce qui est incompatible avec les principes et structures de l'État turc. Mais cela ne rendait pas contraire aux règles démocratiques. Je cite toujours la Cour, il était de l'essence de la démocratie de permettre la proposition et la discussion des projets politiques divers, même ceux qui remettaient en cause le mode d'organisation actuel d'un État. Mais il faut ajouter la condition que dans la mesure où il ne vise pas à porter atteinte à la démocratie elle-même. Donc, un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou de structure légale ou constitutionnelle de l'État, mais à deux conditions. Les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques, et le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Donc, un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas les règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci où la méconnaissance des droits des libertés ne peut se prévaloir de la protection de la Cour et de la Convention. Mais la Cour toujours dit que la dissolution définitive d'un parti politique est une mesure radicale. L'arrêt les faire participer de prospérité souligne l'incompatibilité de la loi islamique avec la Convention et précise donc les limites dans lesquelles les partis politiques peuvent mener des activités bénéficiant de la protection de la Convention. Comme j'avais dit, utiliser les moyens légaux démocratiques, respecter les règles de la démocratie et ne pas viser la destruction de la démocratie elle-même. Donc ici, l'État, ici c'est l'État turc, peut imposer aux partis politiques le devoir de respecter et de sauvegarder les droits et les libertés garantis par la Convention, ainsi que l'obligation de ne pas proposer un programme politique en contradiction avec les principes fondamentaux de la démocratie. Ici aussi, dans ce domaine-là, il y avait eu des modifications apportées à la Constitution en 2001, c'est l'article 69. Et la Cour constitutionnelle pourra maintenant prévoir des sanctions autres que la dissolution, c'est-à-dire privation de l'aide de l'État. Une majorité qualifiée maintenant, il faut, et des 3/5 est nécessaire pour l'interdiction d'un parti. La Cour constitutionnelle, elle avait appliqué cette méthode en 2008 concernant le procès contre le parti AKP. Elle avait décidé de réduire le montant alloué aux partis politiques à AKP, non pas à la dissolution, parce que la majorité qualifiée n'était pas requise. Dès lors, on voit bien que la dissolution des partis politiques en Turquie est devenue plus difficile. La dernière décision de dissolution date de 2003, pour le parti HADEP, qui est toujours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et le recours pour la dissolution du parti DTP est toujours pendant, cette fois-ci, devant la Cour constitutionnelle turque. Elle n'est pas encore décidée sur ce point-là. Donc, avec cela, j'arrive à mon dernier cas. C'est le principe de laïcité. Pardon. Vous savez que la Turquie est pays majoritairement musulman. Le principe de laïcité est considéré comme un principe fondateur de la République. Donc le problème majeur concernait le port du foulard dans les établissements scolaires. Une des premières affaires turques concernait une étudiante licenciée en pharmacie, mais qui n'a pas pu obtenir son diplôme au motif qu'elle n'avait pas produit une photographie d'identité sur laquelle elle apparaissait sans foulard. C'était une décision de la commission Karaduman du 93. La commission considérait que le port du foulard islamique était assimilé à une pression sur les étudiants qui ne pratiquent pas la religion musulmane ou qui adhèrent à une autre religion, susceptible de mettre en cause aussi bien l'ordre public que le respect dû aux opinions d'autrui. Après cette décision-là, c'est le fameux arrêt Leyla Shahin de 2005, l'arrêt de la Grande Chambre de la Cour. C'est l'interdiction du foulard dans les universités turques était considérée comme nécessaire dans une société démocratique avec les références aux arrêts de la Cour constitutionnelle turque. Donc, ça veut dire que la laïcité est un principe de valeur constitutionnelle en raison de l'expérience historique du pays et des particularités de la religion musulmane et qu'elle constitue l'une des conditions indispensables de la démocratie, le garant de la liberté de religion et du principe d'égalité. La Cour, même avant l'arrêt Leïla Shahin, a considéré le foulard comme un signe extérieur fort et ayant un effet prosélytique. L'article 9 de la Convention, c'est-à-dire la liberté de religion et de conviction, ne garantit pas toujours le droit de se comporter d'une manière dictée par une conviction religieuse. Il ne confère pas aux individus, agissant de la sorte, le droit de se soustraire à ces règles. Donc, ici, on voit, contrairement aux autres articles que j'ai essayé d'aborder, il y a une large marge d'appréciation de l'État. Alors, concernant la Turquie, la Cour a dit que la République, d'après les arrêts de la Cour constitutionnelle, s'est construite autour de la laïcité, principe ayant valeur constitutionnelle, que les systèmes constitutionnels aussi une importance primordiale à la protection des droits des femmes, que la majorité de la population de ce pays adhérait à la religion musulmane et que pour les partisans de la laïcité, le voile islamique était devenu le symbole d'un islam politique exerçant une influence grandissante. Donc, la laïcité en Turquie constitue le garant des valeurs démocratiques et des principes d'inviolabilité, de la liberté de religion et d'égalité. Il visait également l'individu non seulement contre les ingérences arbitraires de l'État, mais aussi contre des pressions extérieures émanant des mouvements extrémistes que la liberté de manifester sa religion pourrait être restreinte pour préserver ces valeurs-là. Dans une autre affaire, la Cour a également estimé que, parce qu'après les Leïla Shahin, ce sont les décisions d'irrecevabilité, clair et parfaitement légitime, les principes de laïcité, de neutralité de l'école, ainsi que du respect du principe du pluralisme pour justifier le refus d'accès en cours d'élèves voilés à la suite du refus de ces derniers de ne pas porter le foulard islamique dans l'établissement scolaire, parce qu'il n'y a pas la réglementation en la matière. Donc, ici, la Cour plutôt laisse une large marge d'appréciation à l'État et les écueils qu'il incombait aux autorités nationales de veiller le pluralisme et la liberté d'autrui. Une autre question s'est posée concernant l'enseignement religieux dans les écoles. Et c'est l'affaire Hasan et Eylem Zengin contre la Turquie. Et ici, Mademoiselle Zengin doit suivre le cours de culture religieuse et connaissance morale. Mais selon le programme du cours de culture religieuse et connaissance morale, l'enseignement est dispensé dans le respect du principe de laïcité, de liberté de pensée et de religion, et vise à développer une culture de paix et un contexte de tolérance. Alors, il disait que il tend également à transmettre des connaissances concernant l'ensemble des grandes religions. Alors, l'un des buts suivis dans ce programme-là consiste des connaissances sur le développement historique du judaïsme, du christianisme, de l'hindouisme, du bouddhaïsme, sur leurs spécificités principales, le contenu de la doctrine. Donc, il peut apprécier, selon les critères objectif de la place de l'islam face au judaïsme ou au christianisme. Évidemment, ici, les intentions décrites conforment au principe de pluralisme et d'objectivité concernant le droit à l'éducation. Le principe de laïcité, tel que garanti par la Constitution turque, interdit à l'État de témoigner une préférence pour une religion ou croyance précise. Donc l'État doit être dans son rôle d'arbitre impartial. Quant au manuel utilisé dans le cadre de ce cours, leur examen montre qu'ils ne se contentent pas de transmettre des informations sur la connaissance des religions en général. Il contient des textes qui tendent à inculquer aux élèves les grands principes de la religion musulmane et donner un aperçu général des rites culturels, tels que la profession de foi, les cinq prières quotidiennes, le Ramadan, le pèlerinage, les notions d'anges et de créatures invisibles, la croyance en l'autre monde, etc. Donc, les élèves doivent apprendre par cœur plusieurs sourates de Coran, étudier, illustrations à l'appui, les prières quotidiennes, passer des épreuves écrites à des fins d'évaluation. À cet égard, la Cour estime que dans une société démocratique, seul un pluralisme éducatif peut permettre aux élèves de développer un sens critique à l'égard du fait religieux. Et elle conclut que l'enseignement dispensé, intitulé « Culture religieuse et connaissance morale », ne peut être considéré comme répondant aux critères d'objectivité et de pluralisme, et plus particulièrement dans le cas concret des requérants, comme respectant, parce que d'après la Convention, il faut respecter les convictions religieuses et philosophiques des parents, dans le cas le père de Mademoiselle Zengin, qui adhère à la confession des Alevis, au sujet de laquelle le contenu du cours demeure manifestement insuffisant. Et le système en Turquie offre une possibilité de dispense uniquement à deux catégories d'élèves de nationalité turque. Des parents adhérents à la religion chrétienne ou juive. La Cour estime que cette situation est critiquable dans la mesure où, s'il s'agit bien d'un cours sur les différentes cultures religieuses, alors le fait de limiter le caractère obligatoire du cours aux enfants musulmans n'aurait pas lieu d'être. Par contre, si le cours vise essentiellement à enseigner la religion musulmane en tant que cours sur une religion spécifique, il ne devrait pas avoir de caractère obligatoire pour préserver la liberté religieuse des enfants et de leurs parents. Aucune possibilité de choix n'a été envisagée pour les enfants des parents ayant une conviction religieuse ou philosophique autre que l'islam sunnite et que le mécanisme de dispense est susceptible de soumettre à ceci à une lourde charge, et ça veut dire la nécessité de dévoiler leur conviction religieuse ou philosophique afin que les enfants soient dispensés de suivre les cours de religion. Donc, c'est un arrêt qui revêt une importance. Le suivi de l'exécution de cet arrêt est toujours devant le comité des ministres. Donc, la Turquie doit revoir le contenu des manuels concernant ce cours-là ou de changer la constitution et de mettre facultatif ce cours-ci. Toutes les modifications nécessaires dans le contenu des livres de classe. Voilà, et d'après quelques exemples, j'ai essayé de décrire quelques points importants concernant les questions des droits de l'homme en Turquie. Et pour dire faire une petite conclusion, et je peux dire que c'est vrai que les formes de ces dernières années sont considérables. Mais il reste à poursuivre ces réformes afin de renforcer la démocratie libérale tout particulièrement dans les domaines de la liberté d'expression, liberté d'association et toujours continuer la lutte contre les mauvais traitements, contre la torture. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme joue et jouera toujours un rôle très important comme un accélérateur principal dans le rapprochement du droit turc vers le droit européen des droits de l'homme. Les juridictions turques qui étaient largement liées aux principes constitutionnels restrictifs devraient s'orienter vers l'autorité des droits de la Convention qui avait déjà sa base juridique dans la Constitution. Et j'avais souligné l'article 90 modifié de la Constitution. Donc, par l'interprétation conforme à la Convention, même les dispositions peu favorables, comme je l'ai cité l'article 300 ou 216 de du Code pénal, ils sont peu favorables à la protection efficace des droits de l'homme, mais ils peuvent être appliqués dans le sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais, bien évidemment, pour cela, il faudra une autre logique en vue d'établir les valeurs fondamentales de la démocratie en Turquie. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.
Voilà. Après cet exposé très objectif de la situation en Turquie, on va passer aux questions. Allez-y. Oui, allez-y là.
Bonsoir, madame. Vous avez. Oui.
Allez-y.
Oui, bonsoir, madame. Vous avez exposé et puis nous posons des questions. Moi aussi, je pose une question. Et vous êtes turc, mais je ne vous prends pas comme une tête de turc. Et vous n'êtes pas obligé de répondre. Alors, selon mes informations, parmi les plaintes qui ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l'homme, 95% ont été déposées par les Kurdes, que ce soit les assassinats ou tortures ou les destructions des villages. Est-ce que vous confirmez cette information? Merci.
Oui.
Du tout de cette information ni de cette statistique, parce que comment on peut savoir que si la requête est déposée par un Kurde ou non? Nous n'avons que les noms et l'affaire, et d'après les spécificités de l'affaire, nous décidons d'après la convention. Mais je pense que ce n'est pas vrai ce que vous venez de dire, ou j'ai aucune idée, peut-être c'est vrai, je ne sais pas. Mais à mes connaissances, il n'y a pas une statistique de cette manière-là.
Une autre question là, oui.
Bon, bonsoir madame, merci beaucoup pour cet exposé très très intéressant. J'ai une question à vous poser. L'affaire Ergenekon. L'affaire Ergenekon nous inquiète tous. Est-ce que la durée de garde à vue des gens qui sont arrêtés dans ce cadre, dans cette affaire nébuleuse, est-ce que la durée de garde à vue sont respectées? Est-ce que vous, en tant que juge européenne, vous pouvez nous donner des informations un peu plus neutres? Merci.
Allez-y, prends tout de suite. Et il peut y avoir des problèmes concernant la durée des gardes-vue. Moi, je ne connais pas très bien le dossier, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner des informations là-dessus. Je n'ai jamais donné concernant ce sujet-là, parce que dans les affaires qui ont la possibilité de venir comme requête devant nous, je m'abstiens de faire une certaine déclaration. Autrement, je ne peux pas siéger dans l'affaire.
Voilà. Ah, attendez.
Allez-y.
Ah,
d'accord.
Attendez. Merci beaucoup, madame, pour votre exposé. Je dois avouer que je suis très ignorant sur la Turquie et que je suis bourré de préjugés occidentaux. Donc les questions que je vais vous poser vont peut-être paraître un peu choquantes. La première question que je voudrais vous poser, vous avez parlé de la dissolution des partis et qu'il faut qu'un parti peut être dissous s'il n'est pas conforme aux principes fondamentaux de la démocratie. Mais le droit étant le droit, c'est de l'écriture. Qu'est-ce que l'on entend par être contraire aux principes de la démocratie? Ça peut être très dangereux. Ça peut être la démocratie entendue sous un régime dit autoritaire. C'est un peu vague. Ce principe, il faut qu'il soit conforme. De quelle démocratie parle-t-on? Et deuxièmement, dans nos livres d'histoire, Malé Issak, le régime d'Atatürk, on le flattait beaucoup, mais on disait « mais c'est un régime très autoritaire et qui a l'appui de l'armée ». Autrement dit, moi j'ai été élevé dans l'esprit d'une armée qui n'est pas neutre. En principe, une armée doit être neutre dans une démocratie. Troisième question un peu plus courte. Il y avait un film il y a quelques années qui a beaucoup perturbé l'opinion en France. Je crois que ça s'appelait « Taxi Driver ». C'est-à-dire, c'est un film... Midnight Express, vous voyez, je confonds les films. Excusez-moi, ça c'est l'âge. Mais qui donnait une image absolument terrible des conditions de détention dans les prisons turques. Pouvez-vous un peu élaborer là-dessus? Et ma dernière question...
Oui, voilà. Bon, voilà, laissez-en pour les autres. Hein. Oui. Allez-y.
Oui, d'accord. Voilà. Merci, monsieur. Et d'abord, qu'est-ce que c'est là, dans ce sens de dissolution des partis dans le cadre de la démocratie? Mais vous avez donné la réponse vous-même, parce que c'est le contraire d'un régime autoritaire. Ça veut dire le pluralisme. C'est ce qu'on entend aujourd'hui d'une véritable démocratie, c'est le pluralisme. Donc, il doit avoir toutes sortes de vues et ils doivent s'organiser. Avec la liberté d'association, évidemment, sous toute forme d'association, soit d'un parti, soit d'une association, soit des syndicats. Donc, c'est la démocratie, ce que je comprends, et là, la convention aussi, dans ce sens-là. Contrairement au régime autoritaire, c'est souvent qu'il y a un seul parti. Donc, il faut entendre du pluralisme. Et concernant le régime d'Atatürk, c'est vrai que ce n'était pas une démocratie. Mais à cette époque-là, il n'y a pas de vraie démocratie non plus. Ce que la démocratie que nous référons aujourd'hui, c'est la démocratie des années d'après 1950. C'est avec le nouvel régime qui est surgi après la Deuxième Guerre mondiale. C'est toutes les organisations internationales qui ont développé le concept des droits de l'homme et la démocratie aussi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait un seul parti, c'était son parti, mais à cette époque-là, la démocratie ni les droits de l'homme ne s'entendaient pas comme aujourd'hui. Et voilà, concernant la question des prisons en Turquie, Midnight Express, c'est vrai que c'était un film des années 70 ou 80, début 80 peut-être. C'est vrai que les conditions n'étaient pas très bonnes, j'imagine. Mais maintenant, sans oublier que le pays, et je vous ai dit, la ratification des conventions, et ça date de 87 contre la torture. Donc le CPT, le Comité pour la prévention de torture, font des visites régulières pour les prisons turques. Maintenant, on ne peut parler des conditions de Midnight Express. Peut-être à ce jour-là, il peut y avoir des problèmes. Mais dès qu'il y a des problèmes, il y a, vous voyez, que des requêtes devant les instances internationales. Voilà.
Alors, une question là à gauche, oui.
Bonjour. Je voudrais d'abord dire que je vais m'adresser aux autorités gouvernementales turques et pas au peuple, parce que je ne pense pas qu'on est différent, je pense qu'on est pluriel. La Turquie est signataire de la Convention européenne. Cela signifie qu'elle est tenue d'en respecter les dispositions. Elle persiste malgré tout à nier certains arrêts de la Cour européenne.
L'idée ici, c'est de poser des questions, s'il vous plaît. C'est pas de lire un manifeste. Voilà.
Je vais énumérer quelque chose. Enfin, j'allais le faire, en fait. Depuis 1974, La Turquie s'est rendue coupable de violences et voies de fait, de meurtres, de viols, de détention arbitraire, de torture, de nettoyage ethnique. Elle continue.
La
elle
question,
continue,
s'il vous plaît. Je vous donne la question.
Elle continue le nettoyage plaît. Dans la zone occupée par la destruction du patrimoine culturel, le non-respect du domicile, de la vie privée, de la privation des biens.
Écoutez, mademoiselle, s'il vous plaît.
Comment
je sais
pouvez-vous
si vous avez...
expliquer Est-ce la vous... prétendue légitimité de la Turquie à entrer dans l'Union européenne alors qu'elle n'en respecte pas les valeurs fondamentales et qu'elle occupe militairement le territoire européen?
C'est pas une question, je ne vais pas répondre.
Voilà. Écoutez, vous nous... Bon, très bien, vous vous êtes exprimé, vous avez dit votre point de vue. Donc, très bien. On va poser une question... Oui, on a. Écoutez, voyez, il y aurait quelque chose qui aurait été intéressant si vous aviez suivi l'ensemble des conférences qui se sont données toute cette semaine. Vous aviez la réponse à cette question. Vraiment, l'ensemble des conférences, qu'elles portent sur la politique culturelle ou sur le cycle s'est ouvert par cette question-là et il se clôt demain. Venez, justement, est-ce que la Turquie est un atout ou au contraire un poids pour rentrer dans l'Union européenne? Venez poser la question demain, monsieur Gürsel.
Bonjour. Vous avez dit que le chemin pour Bruxelles passe par Strasbourg et à Strasbourg, en juin 88, le génocide arménien a été reconnu. Or, actuellement, il y a la loi Code pénal 301 qui, justement, peut punir de pénalité et de prison toute personne qui ose parler du génocide arménien. Croyez-vous que cette situation peut encore durer? Et ma deuxième question pose sur la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez mentionné... le traité de Lausanne. Or, le traité de Lausanne a consacré internationalement l'impunité d'un crime contre l'humanité à tel point que Hitler avait dit qu'il se souvient encore de l'extermination des Arméniens. Alors, je pose une question pour la Cour européenne de justice. Pensez-vous qu'un jour, on pourra, que la Cour européenne de justice pourra mobiliser un certain budget pour publier et traduire et publier en turc le récit des rescapés du génocide pour que le peuple turc puisse faire son travail de mémoire comme le peuple allemand a pu le faire, comme en Allemagne il y a eu des monuments dédiés à la mémoire des victimes de la Shoah, etc. Je vous remercie.
Allez-y.
Oui, merci. Bon, et tout d'abord, c'est vrai que la question de l'Arménien, comme je l'ai mentionné, c'est une question au sujet important, donc il faut être discuté à tout niveau, soit international, soit interne. S'il y a des poursuites dans le cadre de l'article 301 qui prévoit une insulte à la nation turque, dans ce cas-là, d'après les décisions de la juridiction, s'il y aura une requête devant la Cour européenne de droits de l'homme, dans le cadre de la Convention, la Cour va considérer cette requête-là. À part ça, concernant la deuxième partie de votre question, ce n'est pas dans le cadre des compétences de la Cour de Strasbourg, ce que vous venez de dire. Oui.
Bon, on va prendre une dernière question, au fond, là-bas. Oui.
Merci pour votre allocution, c'était très intéressant. Donc, d'après ce que j'ai écouté, vous nous avez fait un développement des droits de l'homme au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Vous avez marqué cette jurisprudence par des avancées législatives que vous nous avez rappelées. Donc, il ressort bien que la Turquie veut se corriger en matière des droits de l'homme. Mais est-ce que la Convention européenne des droits de l'homme, à l'instar de la France, est-elle inscrite dans la Constitution? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui s'y oppose?
La dernière partie, est-ce que vous pouvez... à l'instar de la France, c'est ça? Je n'ai pas bien compris.
La Constitution européenne des droits de l'homme est inscrite dans la Constitution française, dans le bloc de constitutionnalité. Oui. Qu'est-ce qui aujourd'hui s'oppose à la Turquie d'inscrire cette convention à la Constitution?
Non, rien. Il sera très bien. On a déjà, comme j'ai essayé de dire, que dans l'article 90 de la Constitution, a essayé d'établir une hiérarchie des normes entre le droit international et le droit national. Donc, mais c'est prévu uniquement pour les lois. Donc, les lois qui sont en conflit avec les droits de l'homme, les droits fondamentaux, et protégés par les instruments internationaux, doivent être interprétés dans ce sens-là. Mais ce n'est pas écrit clairement dans la Constitution que la Convention est au niveau constitutionnel, ni dans le bloc de la constitutionnalité. Ça aidera peut-être encore mieux, mais c'est que je disais que ça existait déjà, la base juridique dans la Constitution. Même avec cette modification-là, les juridictions internes peuvent utiliser la Convention comme une norme internationale. En se basant sur la Convention, ils peuvent donner des décisions au sens de la jurisprudence de la Cour.
Bien, Madame Eshil Karakash, eh bien, nous vous remercions. Et donc, voilà.